de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama 30 minutes pour parler de films qui sont sur les écrans depuis le 27 janvier. Deux interviews, tu en as une, Sophia.
Oui Vincent, j'ai rencontré Daniel Mermet pour Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2.
Et moi j'ai rencontré Martin Juva pour le film Bézanville et je vous parlerai aussi des légendaires. Et toi, Guillaume, tu as trois films.
Oui, je vais vous parler de Gourou, de Nuremberg et de Dreams.
Et nous allons commencer avec ce film qui raconte l'ascension d'un coach en développement personnel très suivi, dont l'influence devient troublante dans une société en quête de sens. Nous parlons de Gourou.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre, moi.
Gourou est le troisième film en quasiment trois ans pour Yann Gozlan. Après Vision et Dalloway, de très respectables thrillers qui n'ont malheureusement pas rencontré le succès malgré des sujets percutants et des têtes d'affiches de luxe, le voici déjà de retour avec ce Gourou dont le sujet lui a été apporté par Pierre Ninet, son fidèle comparse. Alors séduit par l'originalité et la pertinence du sujet, le réalisateur a immédiatement perçu le potentiel d'un film en devenir. Alors il faut dire que c'est l'une des grandes forces du cinéma de Gozlan, oser aller sur le terrain de l'actualité directe et de pas jouer une fausse intemporalité avec des formules pré-mâchées. Après l'intelligence artificielle, donc avec Dalloway, le voici explorer le monde du coaching, ce que le réalisateur lui-même désigne comme le syndrome d'une société en crise.
Fais ce que tu es.
Mathieu Vasseur, numéro 1 des coachs français.
Je vais vous donner les bons outils pour réussir.
Pourriez-vous nous donner votre définition du coaching, s'il vous plaît?
Alors Matt est devenu petit à petit le coach en développement personnel le plus suivi de France. Alors cela implique une influence majeure auprès d'un public qu'il a su séduire d'abord en ligne, puis ensuite grâce à des séminaires de plus en plus grands et de plus en plus spectaculaires. Toujours prêt pour aider son prochain, il a également réponse à tout et à tous, quel que soit le problème intime rencontré. Perte de confiance, manque d'aisance ou maîtrise de soi, malheur en amour ou dans le travail, Matt arrive à convaincre quiconque est dans la détresse qu'il est possible de se dépasser en toutes circonstances pour briller. Son empire est florissant, sa boîte tourne à merveille et il commence même à se faire repérer à l'étranger et en particulier par son maître à penser, le coach américain Peter Conrad, qui veut lancer une série de spectacles spécialisés à Las Vegas. Mais ce succès ne va pas sans ombre. La première est celle de son frère, considéré comme étant le bon élève de la famille et qui trouve absurde cette situation. La seconde est celle du gouvernement qui ne voit pas du bon oeil ses coachs prêcher des conseils de santé sans aucune qualification ni diplôme et va vouloir réglementer ça, mettant en péril son business. La troisième est celle de certains des gens qui l'aident, des êtres émotionnellement instables qui ne vont pas forcément faire les bons choix à son contact. Matt arrive à un moment où il joue gros pour son affaire et son avenir et il va s'enfoncer dans une spirale d'événements qui pourrait tourner très 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 mal, autant pour lui que son entourage.
Je vois nos vies comme des chemins.
Un petit peu moins de métaphores et un peu plus de réponses directes, monsieur Hassel.
Et que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires?
Pourquoi pas demander un diplôme d'État à chaque coach?
Pourquoi pas?
Gozlan réussit à parler de notre époque à travers un sujet qui pourrait sembler de niche, mais qui est en fait extrêmement important dans nos vies numériques. Qui n'a pas vu passer ses influenceurs ou des comptes prodiguant divers conseils au détour d'un scrolling intense? Qui n'a jamais été tenté de lire, d'écouter, voire de souscrire un tant soit peu à ces apôtres du bien-être, tant ils promettent des solutions miracles des lendemains qui chantent? Gourou met à nu les mécanismes de ce culte de la bienveillance qui est en fait un business juteux et extrêmement dangereux. Les injonctions au bonheur et à la réussite dans une société intrusive de plus en plus espionne des performances et des résultats font des ravages dans les esprits et a donné naissance aux influenceurs et aux créateurs de contenu qui se nourrissent des vides intérieurs pour remplir leur caisse. Et le grand tour de force de Gourou est de littéralement nous faire berner par le personnage joué par Pierre Ninet qui arrive presque à nous convaincre de sa volonté de bien faire pendant une quarantaine de minutes avant que son manque de légitimité hein. Alors, il n'a même pas le bac, hein, et se permet de dire à des gens de quitter leur boulot. Et les ravages qu'il peut causer chez les esprits sensibles, ben, nous exploser au visage.
On va tous être au chômage, voilà, c'est plus clair, ça.
Matt, le vote de la loi, c'est dans 10 jours.
T'es pas non plus sur le monde des Oliviers à prêcher la fraternité universelle, non?
Je peux pas les laisser tout me prendre.
Positivité toxique. Vous connaissez cette notion ?
Lorsque l'apparente sympathie de Matt vole en éclats, Gozlan nous amène sur un terrain qu'il maîtrise à la perfection, celui du thriller, hein, haletant et entrechassant plusieurs intrigues avec un compte à rebours à la clé. Pierre Niney, hein, s'inspirant du Tom Cruise de Magnolia ou du Jake Gyllenhaal de Nightcall, hein, est particulièrement excellent et donne tout son sens au titre, hein, en incarnant une nouvelle fois un personnage s'appelant Mathieu Vasseur, comme dans Un homme idéal et Boîte noire. Il fait face à un casting tout aussi impliqué, hein, d'Anthony Bajon en fan déséquilibré et à Christophe Montenez en frère ennemi, en passant par Holt McAnally, hein, dans La peau du rock Peter Conrad. Gourou est une fable moderne, percutante, qui nous rappelle si besoin est, hein, que l'on ne peut décidément pas accorder sa confiance à n'importe qui plus est à l'heure où les réseaux sociaux font plus que jamais de nous une marchandise de masse, hein, et que les plus faibles ne devraient pas oublier que la détresse est un business comme les autres dans un monde capitaliste où seuls les requins aux dents longues s'en sortent.
Ce film, hein, de Yann Gozlan, Gourou, est en salle depuis le 27 janvier. Sprite, sans permis de conduire dans la banlieue parisienne, ne part plus au travail sans son baise en ville. C'est la première interview de cette émission.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Vous voulez rire ?
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Vous êtes beaucoup trop bavard.
Cinérama.
Avec Bézenville, Martin Jova, jeune réalisateur, ne se contente pas de donner un titre énigmatique à son deuxième film, mais premier vrai long métrage. Il offre également une comédie hautement singulière à milieu des blockbusters français en la matière, comme le futur marsupilami de La Chaux, dont je vais vous parler la semaine prochaine. Le récit de Bézenville débute par un geste en apparence anodin. Corentin, alias Sprite, se voit confisquer une bombe de baignoire par sa mère. Il décide alors de se bouger, passer son permis avant de perdre son code et trouver du travail. Mais ce boulot l'emmène sur l'ensemble de la Seine-et-Marne en pleine nuit. Dépendant des transports en commun banlieusards, il doit combler le temps qui le mène à son travail avec une appli de rencontre. Tout cela donne l'occasion à Martin Jova d'exploiter une veine comique qui tient du burlesque et de la situation. Son personnage de Sprite est un homme alors parfaitement déconstruit quand les personnages féminins s'affirment, sa monitrice d'auto-école étonnante Emmanuelle Berco ou encore une policière rencontrée sur appli. Il y a beaucoup de personnages secondaires et tous parviennent à exister, tel le père de Sprite, joué par Michel Hazanavicius, qui est celui qui lui révèle bien à quoi peut servir un Bézenville. Nous écoutons le réalisateur Martin Jova, que j'ai eu le plaisir de rencontrer.
Quand je suis arrivée sur Paris, j'habitais Mantes-la-Jolie. À chaque fois, je ratais le dernier train. Et un jour, je me suis acheté ce petit Bézenville et tous les jeudis, j'allais dans un bar et j'essayais de faire des rencontres et puis je m'arrangeais pour dormir sur Paris.
Sa naissance, du coup, je dirais que c'est vraiment ma découverte de l'objet du Bézenville. Derrière le scénario, l'enveloppe narrative, les personnages, tout ça, c'est venu assez longtemps après l'idée première. Et en fait, je vivais avec ce titre en rêvassant, en m'imaginant comment je pourrais faire un film qui s'appelle Bézenville, qu'est-ce que ça pourrait raconter, pourquoi ça s'appellerait comme ça. Et j'ai mis pas mal de temps avant de tomber sur l'inspiration. Et en fait, tout bêtement, c'est une période de ma vie. J'étais retourné vivre chez mes parents, j'avais une petite déception amoureuse, j'essayais de passer le permis. Et les situations que je vivais entre l'intérim, les leçons d'auto-école, j'ai trouvé assez drôle, assez décalé. Et je trouvais qu'il y avait du potentiel pour raconter... ce que c'est qu'entrer à l'âge adulte aujourd'hui, pour ma génération, dans cette banlieue pavillonnaire-là.
T'as essayé l'intérim ?
Mais moi je suis coincé dans un paradoxe en fait, gros.
Ah ouais, un paradoxe ?
Mais ouais. Genre pour avoir un taf, il faut le permis, sauf qu'il faut que je trouve un taf pour payer mon permis. Tu vois le truc ? Pour ça, je me disais, t'as peut-être un petit plan, toi, tu vois, derrière les fagots.
Bon, j'ai peut-être un truc, mais je te préviens, ça risque d'être un peu foireux, quoi.
Comment ça risque d'être un peu foireux ? Oui, c'est vrai que par rapport à la vision traditionnelle de la banlieue, qui est souvent très violente, très morose, très grise, moi j'ai tendance à cartooniser, rendre les choses plus légères, plus colorées. Parce que je pense déjà qu'il n'y a pas qu'une seule banlieue, et que c'est intéressant de montrer d'autres aspects, d'autres visages qu'on ne voit pas forcément sur grand écran, et qui sont plus proches, moi, de mon ressenti, de mon vécu, et de ce que j'ai envie de diffuser comme message. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas forcément hyper productif de juste ressasser toujours les mêmes thématiques en disant « Regardez comment c'est triste, regardez comment les hommes et les gens sont malheureux et machin. » Et donc, Oui, c'est encore une démarche politique. Je dirais, la bienveillance, pour moi, c'est politique. Quand on regarde les personnages du film, ils sont tous assez bienveillants. Même les flics sont gentils, quoi, c'est vraiment...
Nous, on est venus pour chercher un taf. Quelle branche ?
N'importe quelle branche, hein. Juste payé, quoi.
Tu commences ce soir, 12h30, à cette adresse.
On est spécialisé dans le nettoyage de teuf à domicile.
Et ils peuvent appeler de n'importe où ? Genre de Sergi Pontoise ?
Imbécile, on fait déjà tout le 77, et crois-moi, c'est pas mal, hein ?
Bon, au boulot.
Au tout début, c'était un prétexte économique de se dire, sur mon premier film, on est si peu nombreux, on n'a aucune autorisation de tournage, on a peu de bagnoles pour se déplacer d'un décor à l'autre. C'est vraiment plus pratique si je joue, et qu'en même temps, je fais les deux, ça retire un salaire, machin, on sera plus discret. En fait, j'avais envie de jouer. La vérité, c'est que j'avais hyper envie de jouer. Et j'avais pas trop d'idées... En fait, je sais pas, mais justement, là, je cherche, j'aimerais bien écrire un buddy movie, un duo, mais je demande à tout le monde, là, je trouve aucune idée d'acteur que j'ai envie de filmer, en fait. Que moi, quoi. Sinon, je joue les deux, en fait, c'est pas mal, ça.
Ça, c'est du baiser-ville. Tous les banlieusards, on avait un baiser-ville comme ça. Mais ça te va trop bien.
Ouais.
Mais méga beau gosse, ça me fait trop plaisir, ce cadeau.
Et j'écris tout seul, moi. Et c'est vrai que je suis grave dans mon délire et je laisse pas trop tellement de place pour ajouter d'autres blagues ou quoi. Parfois, des petites vannes ou des petits trucs qui arrivent sur le plateau. Depuis mon premier court-métrage, j'ai été loin dans ce délire-là. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est des gens qui ont des univers, qui ont des personnalités, quoi. Les trucs un peu standards, mais pas mal, machin, ça m'intéresse pas. Je préfère un truc raté, mais qui va à fond, qu'un truc un peu bien foutu, mais mou du genou, quoi.
Qu'est-ce que j'ai pu baiser grâce à ça ?
Ouais, je crois que je préfère pas savoir.
Non, mais tu préfères pas savoir, mais c'est comme ça que t'es né.
C'était Martin Jova, le réalisateur de Baisanville, comédie tout à fait singulière, en salle depuis le 27 janvier. Nuremberg revient sur l'évaluation psychiatrique des dignitaires nazis en 1945, dont Göring, avant leur procès historique. Nous parlons du film de James Vanderbilt.
J'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Cinérama.
C'est votre dernier mot ?
Ils ont capturé Hermann Göring, vivant.
Qu'est-ce qu'ils vont faire de cet homme ?
Cet hôtel a été transformé en prison militaire secrète. Elle abrite actuellement ce qu'il reste du haut commandement nazi. Hey !
Alors comme son nom l'indique, le long métrage revient sur l'un des événements judiciaires les plus importants de notre histoire. Tenu entre le 20 novembre 1945 et le 1er octobre 1946, le procès de Nuremberg visait à juger et punir 24 des principaux responsables du Troisième Reich. L'enjeu était de taille, puisqu'il ne s'agissait pas uniquement de faire un procès juridique, mais une radiographie de la moralité et de l'humanité. Juger pour la première fois des crimes de guerre des nazis, c'était questionner ce qui fait un homme d'un homme un homme, et une société un endroit viable. Questionner la moralité et essayer de comprendre comment des empires ont pu en arriver à créer de telles machines de mort industrialisées. Le procès de Nuremberg, c'est une lutte et une volonté des Lumières pour apprendre à s'armer au mieux de l'obscurantisme le plus total. Et c'est ce que le présent film va essayer de mettre en scène.
Les gouvernements sont en train de décider si oui ou non ils vont juger ces hommes pour des crimes passibles de la peine de mort. Le commandement central vous considère comme un super psy. Vous avez été amené ici pour évaluer et être garant de la santé mentale des prisonniers.
Il est officiellement le plus haut gradé de tous les temps.
Il est extrêmement intelligent.
Charmeur.
Et narcissique.
Je vais me faire disparaître avant que le bourreau m'exécute. Je vous trouve très sûr de vous.
James Vanderbilt connaît assez bien le procédé du film juridique, ou d'enquête remuant les institutions officielles à la recherche d'une vérité qui dérange, puisqu'il était derrière les scénarios de Basic de John McTiernan et de Zodiac de David Fincher. Alors dans Nuremberg, Rami Malek incarne le psychiatre américain Douglas Kelly, venu déterminer si les prisonniers nazis sont aptes à être jugés pour les crimes qu'ils ont commis, et se retrouve face à l'impressionnant et impitoyable Hermann Göring, joué par le non moins impressionnant Russell Crowe, toujours aussi bon quand il s'agit de donner vie à des salauds comme dans l'excellent Enragé. Alors adapté du livre de Jack L. Hay, le nazi et le psychiatre qui se concentre sur la passe d'armes verbale et morale de Kelly, qui fut le premier psychiatre allié à évaluer des dirigeants nazis, il offre un angle nouveau à ce procès historique qui avait déjà fait l'objet de films mémorables. On ne peut pas ne pas mentionner le chef-d'œuvre de Stanley Kramer, Jugement à Nuremberg, film fleuve de plus de 3 heures de 1961, à la fois époustouflant et bouleversant, qu'on ne vous conseille que trop de regarder en complément de celui-ci, comme j'allais dire l'intégralité des films de Stanley Kramer d'ailleurs. Alors le film de Kramer se concentrait sur les détails des procès, mais pas sur le travail préparatoire qui va être déterminant pour inculper définitivement ces criminels. Et Douglas Kelly va avoir fort à faire puisqu'il va devoir composer avec l'aspect hautement manipulateur de Göring, un être profondément troublant et conscient de lui-même.
Tout ce qu'il serait pas une victoire.
victoire absolue sera considérée comme une défaite cuisante. Vous devez être inattaquable.
Je vais faire comparaître Hermann Göring à la barre et l'obliger à révéler au monde entier ce qu'il a fait.
Quelle sera votre défense?
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi pas la vérité?
J'en connais plus sur cet homme que n'importe qui d'autre sur cette planète.
Vous allez tout droit dans un piège.
Mais le but du procès et du film n'est pas de souligner une évidence, qui est l'horreur absolue du régime nazi et l'inhumanité profonde des hommes qui l'ont fait prospérer et ont compté dessus pour dominer les autres. C'est qu'il s'agit de montrer quelque chose de bien plus dérangeant et qui a pour effet escompté de documenter et d'informer les gens sur un processus bien plus vicieux et horrible que la simple haine ou la violence. C'est-à-dire comment le mal peut être institutionnalisé et donc être fabriqué, validé et accepté comme tel par une société. Alors Rami Malek, qui en plus de lire le livre d'El Haïk, a lu celui de Kelly, 22 Cells in Nuremberg, il en tire cette citation que je suis obligé de vous rapporter. Kelly ne pouvait s'empêcher d'éprouver de l'empathie pour Göring. Il était convaincu qu'il était là pour disséquer le mal, comme il explique dans son livre, mais il a découvert ensuite que Göring n'avait rien de spécifiquement mauvais. Il s'est rendu compte que n'importe qui, à n'importe quel moment et dans n'importe quel paysage politique, pouvait être capable d'une telle atrocité. Cela a dû être un choc absolument terrifiant. Le psychiatre en est venu à comprendre la facilité avec laquelle le mal peut imprégner la société. Alors il est dommage que le film reste assez balisé et donne un discours moralisateur convenu, car déjà vu mille fois et sans véritable plus-value ici, malgré un point de départ aussi glaçant que passionnant. On l'entend dans la bande-annonce, il y a un petit côté presque silence des agneaux avec ce proto-Hannibal Lecter. Bon, en définitive, c'est un vrai bon film mémoriel, même si le Stanley Kramer reste, à mes yeux, vraiment intouchable.
Ce film Nuremberg, sur pas mal d'écrans quand même en France, depuis le 27 janvier. Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2, explore la révélation du passé des États-Unis en donnant voix aux peuples et travailleurs longtemps marginalisés. C'est la deuxième interview de cette émission.
Qui êtes-vous?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique, invité et nouvelles du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire?
Ce documentaire didactique sur l'histoire des États-Unis est à sa manière aussi une arme politique. Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2, est donc le deuxième volet d'un projet documentaire commencé il y a maintenant 10 ans. Un film qui ne raconte pas l'histoire des vainqueurs, mais de celles et ceux qu'on a toujours fait taire. Les ignorés de la grande histoire, les lapins dans un récit officiel que racontent seulement les chasseurs. Derrière ce projet, au long cours, il y a deux réalisateurs français, Daniel Mermet et Olivier Azam. Le premier, on l'a longtemps entendu sur France Inter, dans Là-bas si j'y suis, une émission culte, libre, où l'on parlait de lutte sociale, de domination, de résistance, avec ceux qu'on n'écoute pas souvent. Depuis 2014, il poursuit ce travail sur son média indépendant en ligne, là-bas.org. À ses côtés, Olivier Azam, réalisateur, monteur, cofondateur avec Mermet de la coopérative Les Mutins de Pangé. Ensemble, ils forment un duo de cinéma engagé qui a filmé Noam Chomsky, interrogé l'impérialisme, la propagande, la fabrication du consentement. Leur cinéma cherche autant à expliquer le monde qu'à le désencombrer de ses mensonges. En 2015, il sortait donc un premier film consacré à l'œuvre de Howard Zinn, historien américain, auteur d'une histoire populaire des États-Unis, un livre qui commence par un blasphème en s'attaquant à Christophe Colomb, figure tutélaire au cœur du mythe fondateur américain. Et ce deuxième opus va un peu plus loin, il raconte Zinn lui-même qu'ils ont rencontré pour un long entretien à Boston. Ancien bombardier, témoin et acteur de Royan, d'Hiroshima, et qui a compris trop tard qu'il n'existe pas de bonne guerre. Il passera alors le reste de sa vie à démonter les récits officiels, à rappeler que derrière chaque empire, il y a toujours des dissidents. Ainsi, ce documentaire n'est pas seulement un film d'histoire, malgré une grande proportion d'images d'archives, c'est un film sur la guerre culturelle en cours, sur la censure, sur la bataille pour le récit. Qui a le droit de dire l'histoire? Un troisième volet se prépare, il est prévu pour dans 6 mois, centré sur la religion, qui apportera des éléments de réponse complémentaires, car selon les réalisateurs, il est impossible de comprendre l'histoire des États-Unis sans comprendre le rôle central du religieux dans sa construction. Enfin, Howard Zinn disait « On ne peut pas rester neutre dans un train qui est en marche ». Avec leur film, Mermet et Azam, nous font entrer dans l'un de ces wagons de deuxième classe. On écoute donc l'un des réalisateurs, Daniel Mermet, que j'ai rencontré.
Tant que les lapins n'ont pas d'historien, l'histoire est racontée par les chasseurs.
Pour justifier la conquête de l'Ouest, il fallait que ce peuple ait une destinée manifeste selon les textes sacrés. Ce qui autorisait le massacre des Indiens, de leurs troupeaux, de leur espace, etc. Donc il y a cette notion d'une destinée manifeste qui était bien avant celle des Pilgrims, ceux qui sont arrivés en 1620. Ils étaient un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Et c'est une formule qu'on a retrouvée avec le sionisme, c'est la même idée. On a une mission sacrée, on est appelé par Dieu à... Ça paraît tout à fait saugrenu, ce que je dis là, dans un pays laïque. Et quelle cette chance, on est un pays laïque, on est un pays séculier. Et on ne peut pas comprendre l'histoire des États-Unis si on ne comprend pas le poids de la religion. Il y a 90 millions d'évangélistes aux États-Unis, dont 10 millions sont votent démocrates, mais 80 millions votent républicains, et qui tiennent complètement ce Trump comme ils veulent. Les évangéliques tiennent complètement Trump, s'ils veulent. Donc c'est une puissance. D'ailleurs, il est tout le temps avec entouré de religieux, de religions, etc., d'images. Donc c'est une clé importante pour comprendre les États-Unis, c'est cette mission qui est la leur, c'est la sienne aussi. Là, ça va être le Venezuela, ça va être... Bien sûr que ça masque un seul truc, c'est gold. ce que dit tout de suite Zinn sur la mission de Christophe Colomb, il n'a jamais eu de vision... de civiliser, même de découverte, il n'y avait qu'une chose qui les intéressait, c'était le pognon. Or, c'était une provocation quand il a sorti son bouquin en 1981, d'attaquer Christophe Colomb, c'est un grand, grand mythe aux États-Unis. Et Columbus Day, c'est une grande fête aux États-Unis, notamment pour la communauté italienne qui s'est appropriée l'image de Christophe Colomb. Et donc, ça a été un choc à cette époque-là. Dans l'ordre de la convergence des luttes, on a plutôt tendance à mettre les luttes sociales un peu avant les autres. Mais c'est vrai que toutes ces... D'ailleurs, Martin Luther King s'est fait buter à partir du moment où il a fait dans le social. Hein? C'était un marxiste, hein? le pasteur Martin Luther King. À partir du moment où il s'est occupé vraiment des inégalités sociales, là, il devenait vraiment très subversif. Il l'était déjà pour les questions raciales, de ségrégation. Et notre film montre ça, montre sur l'histoire de Scottsboro, que cette convergence exceptionnelle qui a eu lieu entre le NAACP, c'est-à-dire le mouvement pour l'émancipation des gens de couleur, mais qui ne s'occupait pas d'inégalité sociale, il s'occupait d'inégalité raciale. Très bien. Et par ailleurs, il y avait le brinque-ballant parti communiste américain qui cherchait à séduire les Noirs, les descendants d'esclaves, etc., pour grossir ses rangs, parce que parmi eux, il y avait beaucoup de travailleurs quand même. Voilà. Et tout d'un coup, il y a une convergence entre ces deux mouvements qui ont abouti à cette réussite extraordinaire qui a été la libération des 9 garçons de Scottsboro avec les 2 filles qui finalement n'étaient pas du tout des prostituées et dont une des deux est passée au Parti communiste. C'est absolument une histoire géniale. Vous savez que c'est une grande affaire aux États-Unis, ça. Et il y a eu des comédies musicales. Enfin, c'est assez curieux parce que ça fait pas partie des mythes qui sont tellement connus en France. Wait until some of our older whites die out before you open a museum.
Ah oui, le gun.
Yeah, this is mine. It's like the West. No way, everybody had guns.
On a fait une version américaine du film précédent, du premier. On a fait une version américaine et ce premier film circule et ça nous a rapporté un peu de sous pour financer celui-là. Ni Olivier ni moi n'avons un message clair et simple à dire. On a dit, regardez ça, faites-en votre miel et puis continuez le combat ou commencez le combat.
Nous écoutions Daniel Mermet, grande voix de la radio française, pour le film, le deuxième épisode sur l'historien Howard Zinn. Dreams suit l'histoire d'une Américaine aisée qui tombe amoureuse d'un danseur de ballet mexicain, bouleversant leur vie respective. Nous en parlons maintenant.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma.
Cinérama.
Nous en parlerons tout à l'heure.
Triste époque, hein, où le sexe n'a plus le droit d'exister sur grand écran ou dans l'art, hein, si ce n'est pour en désigner presque intégralement que son usage criminel. Alors les films peinent à jouir, hein, et c'est sans doute un bon reflet d'une époque assez triste. Hein, que dit d'autre la nouvelle version horriblement triste ou nette, hein, d'Emmanuel, hein, qui fut d'ailleurs un gros bide. Alors il y a bien quelques touches érotiques dans La Femme de Ménage, hein, l'un des cartons du moment qui nous rappelle les pas forcément glorieuses, mais au moins amusantes heures d'Hollywood Night sur TF1 et des thrillers vaguement mous du slip, mais c'est à peu près tout. Car de l'autre côté, hein, Dreams incarne une nouvelle vision de la passion uniquement vue comme objet de pouvoir et le désir comme accomplissement personnel. Alors on pourra arguer, hein, que le dernier mouvement en date ayant remis l'érotisme en haut du box-office et peu joliment nommé le mommy porn, à savoir la saga 50 nuances degrés, était déjà sur ce schéma un peu puant. Ben, c'est tout le propos de Dreams, hein, qui n'a de rêveur que son titre aussi bateau que sinistre. You tell me if you want me to come back here after. No! You don't know me at all. Fernando, un jeune danseur de ballet originaire du Mexique, rêve de reconnaissance internationale et d'une vie meilleure aux États-Unis. Alors convaincu que sa maîtresse, Jennifer, une américaine mondaine et philanthrope influente, l'aidera à réaliser ses ambitions, il quitte clandestinement son pays, échappant de justesse à la mort. Cependant, son arrivée vient bouleverser, hein, le monde soigneusement construit de cette Jennifer, qui est prête à tout pour protéger leur avenir à tous les deux, mais ne veut rien concéder, hein, de la vie qu'elle s'est construite. Alors de ce va-et-vient aussi psychologique que physique, hein, qui aurait pu être passionnant si les personnages étaient un tant soit peu intéressants, et attachant à défaut d'apparaître horriblement antipathique, Dreams n'en fait pas grand chose et frustre encore plus que la relation amour-haine de ses protagonistes. Alors il y avait quelque chose de génial à faire, hein, si le sujet avait été confié à un Paul Verhoeven période Showgirls, qui reste le plus grand film moderne, hein, sur le sexe comme affirmation de soi dans une société du paraître. Il le transforme en lutte, épouse tous ses contours sans phare et fait éclater, bah, les destinées de ses personnages à l'image de leur tempérament et de leur avidité. Mais Showgirls était aussi un reflet de son époque, hein, ce qui en dit probablement long, hein, sur l'univers mortifère de ce Dreams qui rate un peu beaucoup sa cible.
Et il est en salle depuis le 27 janvier. Gros succès de librairie, Les Légendaires devient un film d'animation et les enfants sont contents.
This is Cinérama. Cinérama.
Cinq valeureux héros, les Légendaires, s'unirent pour empêcher Darkel de conquérir le monde. Tandis qu'ils affrontaient le sorcier, la pierre de Jovenia se brisa, condamnant nos peuples à vivre dans des corps d'enfants pour l'éternité.
Les Légendaires, c'est un succès français de librairie avec 12 millions d'exemplaires vendus depuis les années 2000. S'il existe une courte série animée, il n'y avait pas eu encore de long métrage d'animation. Eh bien, c'est chose faite avec un budget de 15 millions d'euros pour un dessin animé qui s'offre une belle stature. Dans Les Légendaires, 5 aventuriers qui affrontaient Darkel ont provoqué un désastre. La pierre de Jovenia s'est brisée, provoquant un effet magique catastrophique transformant tous les adultes d'Alizia en enfants. Dans cette aventure qui reprend les deux premiers tomes de la longue série, les 5 compagnons, alors il y a le chevalier Danaël, il y a Jadina la magicienne, Griff, Mi-Homme, Mi-Jaguar, l'elfe Chimie et le colosse Razia. Eh bien, ces 5 personnages vont devoir se retrouver pour lutter à nouveau contre le sorcier Darkel. Car l'heure est grave, un parasite se répand sur Alizia, rendant les individus agressifs.
Est-ce que le si courageux Danaël compte m'expliquer pourquoi il m'a ghosté pendant 2 ans?
Les Légendaires sont de retour. Un câlin pour fêter ça.
C'est Darkel.
Il est temps d'unifier les peuples d'Alizia sous une seule et même bannière.
Tout y est, hein, pour les habitués de la BD, mais aussi pour les autres spectateurs qui ne connaissent pas cet univers d'héroïque fantasy. Nous nous aventurons dans plusieurs contrées qui sont bien représentées avec force de décor et de paysage. L'animation 3D est fluide, même si elle est un peu dénuée de finesse, me semble-t-il. Alors si la BD lorgne vers le manga, et si les personnages sont moins radicaux et virevoltent avec une partition musicale de Cécile Corbel qui avait signé la partition pour Arietti, le petit monde des chapardeurs. Côté scénario, les enjeux sont assez simples, hein. Il faut bien sûr lutter contre le malin sorcier pour débarrasser l'humanité d'un nouveau phare. Pour cela, il faut parvenir à s'entendre, ce que ne font pas forcément les deux filles alors qu'ils ont transformé en peste. Si certains ont vu une réflexion sur le fascisme, bon, on ne va pas quand même exagérer, le film reste à hauteur d'enfant. La plus grande question est sans doute celle de la destinée et de comment dépasser ses erreurs, ce qui est déjà pas mal. Les Légendaires a de quoi combler alors les enfants, ça c'est sûr, et sans doute un peu moins les parents. Et il est en salle depuis le 27 janvier sur de nombreux, nombreux écrans.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine. Tu nous parleras, tu auras parlé avec un réalisateur que tu apprécies.
Oui, je parlerai avec Christophe Gans de son retour à Silent Hill, mais aussi de Rental Family.
Et putain, Sophia.
Je vous parlerai d'À pied d'œuvre de Valérie Donzelli.
Et moi, je vous parlerai de Marsupilami, la grande comédie française. À la semaine prochaine.